Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Eva Ferenczi, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Rémi Sistiaga. La gourmandise de ce matin, c'est une scène magistrale du Samouraï de Jean-Pierre Melville sortie en 1967 dans laquelle des policiers cachent des micros chez le tueur incarné par Alain Delon. La scène entièrement muette a un caractère hypnotique. Melville orchestre chaque mouvement avec une minutie prodigieuse. Les gestes frôlent la perfection et évoquent une maîtrise martiale et calligraphique, de la beauté pure dans le bleu-gris spinétique habituel du réalisateur. J'en profite pour recommander au passage, en plus du film, le beau livre d'Antoine de Beck, paru l'année dernière au Seuil sous le titre « Jean-Pierre Melville, une vie » et qui tente de saisir à travers une riche documentation la personnalité ambiguë du maestro. Chef doublement étoilé et figure atypique de l'univers de la grande cuisine, notre apothicaire de l'âme s'est vu gratifié au collège de la part de la conseillère d'orientation d'un cinglant. La cuisine, ce n'est pas pour des gens comme vous. Celui qui n'a eu de cesse de prouver le contraire passe d'abord un CAP de pâtissier-confiseur, puis s'engage dans l'armée comme parachutiste. Il fait partie des casques bleus pendant la guerre au Liban, reprend des études à 24 ans et devient commis chez Le Doyen, Taïwan et Robuchon. Son audace le propulse chef cuisinier au Regency Hotel à Sydney. Il obtient sa première étoile au Guide Michelin peu après pour son travail au Roc en Val à Tours. Impossible de citer l'intégralité de ses étoiles et de ses établissements, je résume plusieurs années en une phrase. Il sillonne l'Asie, est nommé à la tête du Mandarin Oriental à Paris et se spécialise en cuisine moléculaire. Un temps jury pour l'émission Top Chef, celui qui place la loyauté au-dessus de toutes les valeurs, transmet son savoir dans des programmes de formation et des écoles de quartier. Engagé dans le milieu carcéral, cet ancien titi parisien se détourna du chemin canaille qui lui était tracé en adoptant l'éthique chevaleresque des arts martiaux japonais qu'il pratique assidûment et dont il diffuse l'esprit dans ses équipes. Je m'apprête donc à saluer un honnête filou. Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Alors je sais que la chose à éviter à tout prix pour vous, c'est la nostalgie négative, le « c'était mieux avant ». Comment luttez-vous contre cela et quel est votre rapport à la mélancolie ?
Le rapport à la mélancolie, pour moi, je l'évite. D'abord, effectivement, j'essaie de ne jamais être dans la nostalgie. Pour moi, la nostalgie, c'est l'antichambre de la dépression. Et pour pas être dans la nostalgie, il faut avoir un projet. Et la vie est entre un chemin entre l'ordre et le désordre, qu'on le veuille ou non. Et quand vous avez un projet, vous regardez devant vous. La phrase du général Lotte, c'est « calme en avant et droit ». Et ça, c'est intéressant. Quand vous n'avez pas de projet, vous regardez la pointe de vos pieds et la terre qui va vous ensouvrir. Vous tournez sur vous-même, vous êtes devenu nombrilique. Et là, vous avez des nostalgies et des nostalgies mal placées. Et là, vous pouvez rentrer dans une forme de dépression.
Et quand on n'a pas d'envie particulière, par exemple, quand on est d'un tempérament assez mélancolique, vous, votre conseil, ce serait de se forcer à formuler un projet, avoir
oui,
un but.
Un projet, pour moi, ça peut être un petit projet. Ça peut être avoir le projet d'être un homme positif, un homme au sens large du terme.
Il y a un livre que vous avez écrit, d'ailleurs.
Oui, l'homme positif. Et je me disais, de se lever le matin, moi, ça commence souvent par... presque une palpation comme ça, du bas des jambes, les bras, ça va, pas trop de courbatures. Je me lève, je bois un café noir, je médite un peu, et puis c'est parti, parce que je me dis, j'ai de la chance. Il y a des gens, une dame un jour qui me disait, mais j'en ai marre de vieillir. Je dis, mais il y a des gens qui n'ont pas la chance de vieillir. À me dire, ça c'est bien, c'est positif. Vous voyez, on peut être positif, ça peut être un projet, et ça peut éviter la mélancolie.
Ça vous arrive jamais d'être découragé en vous levant le matin ?
En me levant le matin, non. En allant me coucher, oui. Et c'est justement le moment où il faut aller se coucher. Parce qu'on ne regarde plus la vie comme il faudrait la regarder extrêmement positivement. Et on se dit, y a plus rien à faire. Ah oui, on peut aller se coucher. Le lendemain, on se réveille avec une énergie. Pour moi, de se réveiller le matin, c'est nouvelle vie, nouvelle énergie. Changer de situation, nouvelle vie, nouvelle énergie. C'est toujours ce que je me dis. Et quand on me dit, t'as pas eu de chance pour ça. Si, non, j'ai de la chance. Je suis vivant.
Mais c'est un regard, vous vous forcez à vous mettre dans une certaine perspective, ça demande un effort malgré tout de toujours voir le bon côté des choses. C'est pas naturel.
Vous avez raison, c'est pas naturel, mais c'est un combat.
Une discipline.
C'est une discipline de vie, c'est un combat. Discipline, c'est peut-être un bien grand mot, c'est une hygiène de vie. Vous pouvez vous plaindre de tout, tout le temps. Et là, vous allez vraiment être très, très, très mal. Donc, vous pouvez voir du beau et de la mise en lumière d'un certain nombre de choses autour de vous qui vont vous ravir l'âme et vous donner la propulsion nécessaire pour affronter la journée.
Je vais annoncer le sommaire aux auditeurs, mais juste avant ça, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce qu'il en sera sans doute un tout petit peu question dans vos remèdes, mais ce n'est pas vos choix premiers. Le rapport entre la nourriture et la mélancolie.
Ah, le rapport entre la nourriture et la mélancolie, il est vrai quand vous manquez de nourriture, quand vous n'avez pas vos repères gourmands, vos repères plaisir. La cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. Vous ne pouvez pas inverser. Quand vous êtes astreint, assigné à une forme de régime, quand vous êtes assigné à une forme de nourriture, la mélancolie peut arriver vite. D'ailleurs, je travaille, comme vous l'avez évoqué, dans le milieu de la détention, et la première des choses que fait un détenu, c'est de savoir de se repérer en fonction des heures des repas et essayer de grappiller ce qu'on appelle le gloubi, d'ailleurs, de mettre ensemble plein d'ingrédients qu'on a avec les co-détenus et de partager un repas.
Le gloubi de Gloubi-Boulga ?
Oui, c'est un peu le gloubi, c'est le terme employé par les détenus en maison d'arrêt, et ils partagent cette nourriture, parce que redonner du sens à la journée, redonner du sens à la matinée, ça passe par l'alimentation. Donc l'alimentation est un remède contre la mélancolie, bien entendu.
Vous évoquiez hors antenne la nostalgie des produits qui évoquent l'enfance.
Oui, moi je me souviens de plats qui m'amènent à des fois à de la nostalgie, je les évite un petit peu, mais des plats, des arômes, moi je me souviens à Belleville, les arômes des kebabs, ce qu'on appelait les grecs à l'époque, je m'en souviens très très bien.
Car vous êtes un gosse de Ménilmontant.
Oui, les sandwichs juifs tunisiens, tous ces arômes-là, de temps en temps, quand je passe, je rentre. Ça sent cette odeur et je me dis attention, tu vas rentrer dans la nostalgie passive, ça a pas d'intérêt, c'est pas exact. Je me souviens que mon père mangeait du corned beef, on appelait ça du singe à la maison. C'était vraiment dans les périodes un peu maigres et c'est des plats régressifs qui me ramènent vers une nostalgie qui pourrait m'entraîner vers la mélancolie. Oui.
Vous vous empêchez de glisser, hein, Thierry Marx, ça va se remarquer aussi dans vos remèdes.
C'est vrai.
Alors, le sommaire, dans quelques instants, vous allez convoquer les Blues Brothers, l'imagination, la durée, le sport, du kendo, San Antonio, Edith Piaf et une souris déglinguée, juste après le titre What's Chasing You du néo-zélandais Marlon Williams.
Thank you.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Thierry Marx et de deux hommes qui gardent leur chapeau et leurs lunettes de soleil au hammam.
Put the band back together, do a few gigs, we get some bread, bang, $5,000.
Yeah, well, getting the band back together might not be that easy, Jay.
What are you talking about?
They split. They all took straight jobs.
Yeah, so you know where they are. You said you were keeping in touch with them.
I got a couple of leads, a few phone numbers. But I mean, how many of them visited or even wrote you, huh?
They're not the kind of guys who write letters. You were outside, I was inside. You were supposed to keep in touch with the band. I kept asking you if we were gonna play again.
What was I gonna do? Take away your only hope? Take away the very thing that kept you going in there? I took the liberty of bullshitting you, okay?
You lied to me.
It wasn't lies, it was just bullshit.
1980, le culte The Blues Brothers de John Landis qui signe le scénario avec Dan Aykroyd, l'un des deux Blues Brothers avec John Belushi. Alors le premier va chercher l'autre en prison et lui avoue qu'il n'a pas gardé le contact avec le groupe qu'ils avaient et il ne lui a pas dit pour le protéger. Ça se finit par ce fameux échange. J'ai pris la liberté de te raconter des conneries. Son frère rétorque, bah, tu m'as menti. Et l'autre, non, je t'ai raconté des conneries.
C'est étonnant, j'adore ce film, parce que c'est vraiment le remède contre la mélancolie, parce que plus d'argent, mais le projet de reconstruire un groupe, une voix divine qu'on espère, qu'on devine, et tout est possible. Et il y a une dynamique dans ce film qui est supérieure à tous les autres films pour moi, c'est que tous les acteurs de ce film étaient dans une passe extrêmement difficile, que ce soit Aretha Franklin, que ce soit James Brown, Joe Hooker, enfin des gens comme ça étaient vraiment dans une passe très difficile. On les regroupe, ça devient un projet, on sent l'intensité d'Aretha Franklin, on sent l'intensité de James Brown, et on se dit, bah voilà, avec un projet, tout est possible, et d'aller même vers l'au-delà, et l'au-delà vous récompense. Moi, je trouve ce film extraordinaire.
Il y a Ray Charles aussi, Cab Calloway, c'est aussi le genre de personnage qui vous plaise, Thierry Marx, parce qu'ils commettent des larcins pour une noble cause, en fait, ils veulent rassembler de l'argent pour sauver leur orphelinat d'enfance qui est menacée de fermeture. Vous aimez bien, vous, les sales gosses comme ça, avec un code d'honneur.
J'aime bien les sales gosses avec un code d'honneur, mais j'aime surtout les gens qu'on ne considère pas faits pour l'échec, qui ne sont pas assignés à quelque chose. Oui, vous avez pu être un sale gosse. Oui, vous avez pu avoir commis un certain nombre de choses pas terribles dans votre vie.
On a droit à une rédemption.
Il vous faut une rédemption. Et là, la rédemption est très jolie parce que c'est par la musique et la diversité, parce qu'il y a une diversité de musique dans ce film qui est absolument hallucinante. Et puis, il y a tous les codes de l'espoir américain, hein, du rêve américain avec Dieu tout-puissant et Dieu dans la rédemption.
Les scènes de danse, c'est vrai qu'elles sont absolument galvanisantes. Et puis tout est démesuré, il y a un côté cartoonesque dans ce film. Je pense à la galerie d'ennemis, la police, un parti nazi de l'Illinois, ouais. Un groupe de musique dont ils ont usurpé l'identité. Ouais. Et puis Carrie Fisher avec un bazooka.
Ouais. Et surtout, c'est quand il dit il y a un parti nazi dans l'Illinois, comme si c'était quelque chose de complètement improbable. Et on entend la voix de Joe Lee Hooker au bord. Et à un moment, quand il rentre dans le hall des dining, comme ça, il dit « Je voudrais un poulet entier, madame. Et vous, coca et des toasts. C'est tout, pas autre chose, non, un coca et des toasts. Yeah, c'est les Blues Brothers. Ah, c'est très drôle. C'est très, très drôle.
Installons une ambiance de parcours initiatique. Atale Mukha Chopi, musique traditionnelle du Népal, pour introduire l'idée qui vous appuie, Thierry Marx, elle est attribuée à Bouddha. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. C'est ce qui vous est arrivé. C'est une très mauvaise nouvelle pour les pessimistes.
C'est une très mauvaise nouvelle pour les pessimistes parce que c'est complètement vrai.
Je vais me transformer en caillou noir solitaire.
Tout ce que j'ai pu imaginer dans ma vie. D'abord, le premier démarrage de ma vie, c'est de dire je vais sortir de mon extraction sociale. Je veux vraiment sortir de ça, je veux pas rester dans ce quartier. J'adore mes parents, j'ai adoré mes grands-parents, mais je voulais pas rester dans ce quartier. Je me disais, c'est pas fait pour moi et je veux vraiment m'extraire de ça. Et c'est vrai que je l'ai pensé tellement fort et à mon avis, ça s'est fait. Alors ça s'est fait et ça s'est resté comme un projet. Et comme j'avais fait cette prévision, ce forecast, bien finalement, j'ai réussi à, même dans mes échecs, à trouver des choses positives pour continuer à construire quelque chose qui allait me porter et qui continue à me porter aujourd'hui.
Mais ça demande un certain contrôle sur son imagination. Quand on imagine des choses terribles, je ne sais pas si par exemple on se dit « ma grand-mère va me tuer », ça risque d'arriver aussi.
C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier, vous avez noté le film Le Samouraï, il n'y a pas plus solitaire que le samouraï, si ce n'est le tigre dans la jungle, comme on dit dans le code du Bushido. Je crois qu'à un moment donné, c'est Musashi qui dit ça dans son livre, dans le traité des cinq roues, il dit « dès lors qu'on coupe le cordon ombilical, on est un homme seul. Et il faut prendre sa voie. » Alors c'est difficile, certains sortent de milieux plus aisés que d'autres, mais à un moment donné, il faut admettre que les faits sont les faits et que vous êtes quelqu'un de solitaire et qu'il va falloir faire des choix. Et là, votre réussite se basera sur la rectitude de vos choix. C'est comme ça. Et je voudrais bien raconter autre chose, je voudrais bien que ce soit triste. Non, c'est heureux. Vous aurez la vie que vous allez avoir choisie. Sinon, et ce dépendra de la rectitude de vos choix.
Ça me paraît très menaçant.
C'est pas très menaçant,
ça dépend de l'habitude de...
Il y a deux façons de l'apprendre. Vous pouvez le faire pour l'apprendre ou apprendre pour le faire. Moi, je préfère le faire pour l'apprendre. Quand vous marchez sur une poutre, il y a l'ordre et le désordre de chaque côté.
Mais c'est plus facile toujours d'aller vers le désordre. Ça demande moins d'effort.
Oui, mais c'est aussi sclérosant que d'aller dans l'ordre. Et aussi perturbant d'ailleurs. Et si vous avez un projet, vous n'allez pas tomber. Et si vous tombez dans l'un ou dans l'autre, vous allez savoir en sortir parce qu'il y a cette idée du projet. Au contraire, c'est heureux. Dans les paroles du Bouddha, c'est exactement ce que je dis. Tu penses ce que tu veux et tu seras ça. Si tu sais ce que tu veux, alors montre ce que tu vaux. Et c'est ce que j'aime dans cette spiritualité du bouddhisme zen, c'est si tu sais ce que tu veux, montre ce que tu veux. Observe la nature. Regarde, moi j'adore la stratégie de la libellule. Une libellule, ça va à droite, ça va à gauche, ça monte, ça descend, ça avance, mais ça ne peut pas reculer mécaniquement. Ça trouve l'axe cognitif pour passer l'obstacle. C'est intéressant. Or qu'elle vient de quelque chose de très difficile. Elle vient de l'eau, elle échafaude quelques roseaux pour sortir de ce tétard et devenir un papillon et un joli papillon qui a comme espérance de vie le présent. Le passé est pas très sympa et le futur ne pourra peut-être pas naître. C'est un animal du présent. Donc c'est tous ces symboles du vivant et cette spiritualité du vivant qui m'intéresse. Et il n'y a pas de mélancolie là-dedans. Il y a au contraire quelque chose de positif. Mais il faut être capable d'être dur avec les faits, bienveillant avec soi-même, bienveillant avec les autres. Mais les faits sont les faits. Vous êtes un solitaire. Et on est des solitaires nés.
Mais c'est ce qu'il y a de plus dur, d'être bienveillant avec soi. Je pense à une phrase que vous avez dite en interview, « Laisser la place au hasard n'est pas mon genre ». Comment est-ce qu'on fait quand on a un caractère de ce type? Puisque, je veux dire, les stoïciens vous diraient « accepte aussi l'accident, accepte le destin ».
Oui, mais si vous voulez pas... Moi, je veux bien qu'on fasse un petit sujet sur les stoïciens. Mais les stoïciens étaient capables d'analyser les faits.
Oui, ça dépend si on a du pouvoir ou pas dessus.
Voilà. Ils acceptaient d'analyser les faits, de faire l'analyse causale et de se dire, bon, ok, ça a créé un petit peu d'incertitude. D'ailleurs, ils l'appelaient la mère de l'incertitude. Et j'accepte parce que finalement, j'ai reconnu un certain nombre de faits. Je suis prêt maintenant à traverser cette mère de l'incertitude. C'était tout le travail des stoïciens, à mon avis.
Vous n'avez pas un désir de maîtrise?
Non, j'ai un désir toujours de mettre du temps entre mes émotions et mes actions. Et ça, vraiment, le travail sur l'art martial, n'est pas une succession de coups de pied et de coups de poing.
On va d'ailleurs le détailler plus tard.
C'est d'être capable de mettre du temps entre ses émotions et ses actions. Et ça aussi, c'est un remède contre la mélancolie. Regardez aujourd'hui au rythme où nous vivons, au rythme du SMS. Donc à chaque fois, on prend un impact, virtuel certes, mais avec des mots dont on ne veut même plus comprendre le sens. Et on répond avec des mots dont on ne comprend même plus le sens. Pour aboutir à être fâché de quelque chose qui n'aurait pas dû naître. Donc si on prend un peu de temps, finalement on se dit « non, ce mot ne veut rien dire, placé là où il est, je prends un peu le temps, je réfléchis et je réponds. »
On crée ce qui nous fâche.
On crée ce qui nous fâche et on se fabrique des ennemis pour rien. Moi, mon plus gros travail pour lutter contre la mélancolie, c'est de dire « je n'ai pas à me fabriquer d'ennemis ». Et c'est ça, c'est un vrai travail, vivre sans ennemis. André Cognard a écrit un très beau livre là-dessus.
Votre citation béquille, c'est la devise du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, ça vous dit quelque chose? Une devise créée par le général Marcel Bijard, être et durer, et qu'on retrouve légèrement modifiée dans le sous-titre de votre livre, L'homme positif, savoir être pour durer. L'homme positif, selon vous, c'est celui qui regarde devant lui, qui est en permanence capable de voir une opportunité dans ce qui arrive. Ça recoupe absolument tous vos remèdes. Vous avez échappé à tout déterminisme, c'est votre parcours.
Complètement, c'est-à-dire que être et durer, savoir être pour durer, c'est regarder devant soi, saisir les opportunités et puis avancer. Le passé est passé, vous ne pourriez plus rien y faire. Le futur, quand vous y serez, sera le présent. Donc il faut vivre le présent. Et dans le présent, il y a énormément d'opportunités dans une journée. Rien que dans une journée. Et puis quand vous considérez que ce n'est pas une opportunité, que ce serait un échec, faites-en l'analyse causale de cet échec. Là, vous en faites déjà une opportunité parce que vous allez comprendre ce qui vous a fait faire une erreur ou pas. Ce qui pouvait être une erreur un jour peut être une opportunité un autre jour.
Et quand ça paraît absurde, parce que parfois l'échec est absurde.
Oui, mais quand vous faites l'analyse de l'échec, vous apercevez qu'il y a une énorme part de responsabilité qu'on ne veut pas voir. Souvent, j'entends l'échec est un concept, la chance est un concept. Et il faut l'admettre. Le one shot de la chance, de dire je vais gagner un jour, il y a une chance sur 1 milliard que je gagne quelque chose à la loterie. Mais par contre, si je considère que la chance est un concept, là je vais construire ma chance. Donc plus de la chance, mais de l'épanouissement. Ça, c'est plus de la mélancolie. Et ça, c'est aussi lutter contre la mélancolie. Être capable de se dire, je crée ma trajectoire, la rectitude de ses choix.
Et vous en êtes la preuve. Dans un instant, on parlera de votre remède souverain, juste après avoir écouté un morceau du prochain album de Françoise Hardy, Le Large.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Une étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi. Aucun requin, aucun air triste. Aucun regret, aucun séisme. Aucune langue de bois. Aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin, là au final.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Thierry Marx. Vous avez reconnu. Le collectif de percussionnistes japonais Kodo frappant sur leur taiko, taiko qui désigne autant le tambour traditionnel que l'art d'en jouer. Vous aurez compris, Thierry Marx, que je cherchais un moyen sûr de nous télétransporter au Japon où vous avez vécu et où se trouvent les disciplines martiales que vous pratiquez. Vous allez jusqu'à dire que votre premier remède à la mélancolie, c'est le sport. Le sport m'a appris à me canaliser, à prendre sur moi, à relativiser. J'ai rencontré un prof de judo qui a été un vrai exemple. Grâce au judo, j'ai appris des valeurs comme la rigueur, le respect ou l'engagement. Ça vous a sauvé littéralement le sport?
Oui, complètement. C'est-à-dire que je suis né à Belleville, Ménilmontant. Ces quartiers, il y a une grande partie qui avait beaucoup d'insalubrité. Donc mes parents ont été affectés à HLM, puis à Champigny-sur-Marne. Donc je quitte une école primaire où je comprends le sens de l'école primaire. Or, je ne comprends pas du tout le sens du collège, et encore moins le collège des Boulereaux dans lequel j'étais. Et donc, je quitte l'école à 13 ans. Alors, vous imaginez, quitter l'école à 13 ans, c'est la cage d'escalier, c'est les bagarres, et c'est ça. Et ma mère, qui en avait ras-le-bol de, que je me bagarre tout le temps, me dit, fais du sport. Et fais du sport pas trop cher, quoi. Donc, il y avait la boxe et le judo. Donc, j'ai pratiqué les deux disciplines. J'étais plus attiré par le judo parce qu'il y avait un côté exotique. Et ça a été un cadre éducationnel pour moi, choisi, dans lequel j'ai fait pour apprendre et j'ai adhéré à l'idée martiale, j'ai adhéré à l'idée fantasmée des codes du samouraï et j'ai commencé à m'intéresser à toute cette culture du kempo et toute la culture du bushido.
D'ailleurs, dans votre polar écrit avec Odile Bouillet, On ne meurt pas la bouche pleine, le commandant de la crime Siméo a un peu ses codes d'honneur et il y a d'ailleurs un moment le code d'honneur du judo.
Oui, c'est vrai que il y a vraiment le code d'honneur, le sens de l'honneur. Voilà quelque chose que vous n'expliquez pas. Ça se base sur la confiance, sur un lien invisible, la loyauté. Là, dans le code japonais, on parle d'amitié quand c'est traduit en français, mais c'est la loyauté au-dessus de tout. Quand vous êtes loyal avec vous-même, vous êtes capable d'analyser les faits et de les assumer. C'est fort, vous serez loyal avec les autres. Ça vous balise quand même très largement la vie.
Mais quand les autres ne sont pas loyaux avec vous, comment réagissez-vous?
C'est leur problème. C'est leur
mais pas
problème.
Le vôtre.
C'est pas mien. Le vivre sans ennemis, c'est ça. Les gens qui un tel a dit ça sur toi, t'intéresse pas. Je suis bienveillant avec tout le monde. Par contre, ça vous dégage le corps et l'esprit. Si vous êtes dans l'aïkido, par exemple, ou dans le judo, vous avez besoin d'une certaine souplesse.
Alors l'aïkido, c'est prendre la force de l'adversaire
oui,
pour la rue.
Oui, c'est dans le même topo que dans le judo. Mais si vous êtes bloqué par un certain nombre de parasites, de parasitage de la vie, considérer que l'autre est votre ennemi, qu'il est méchant et que vous allez lui donner une bonne leçon, vous allez perdre. Or que si vous êtes très détendu et que vous voyez en votre adversaire plutôt une personne qui s'est trompée, qui est plutôt bienveillante et que vous voulez aider, c'est complètement et vous serez bien mieux armé pour le terrasser ou vaincre. Et d'ailleurs, dans les codes du Bushido, on dit on gagne pas parce qu'on est le meilleur, on gagne parce qu'on peut pas perdre. Et même si vous arrivez à perdre la vie, eh bien, ce serait pas grave parce que vous avez tellement tout donné. Donc, vous voyez, c'est tous ces codes qui sont extrêmement intéressants et que j'aime appliquer à ma vie. Alors, si les gens n'ont pas de loyauté, c'est leur affaire. Si les gens sont malhonnêtes, c'est leur affaire.
Vous avez pratiqué le judo, le jujitsu, qui regroupe les techniques de combat développées par les samouraïs durant l'époque d'Edo. Le tai chi aussi, je crois que vous imposez à vos équipes.
Alors c'est pas imposé, mais c'est vivement conseillé dans l'entreprise. On pratique le tai chi et le yoga. Et la méditation pour ceux qui le choisissent, mais il y a des 3 jours par semaine où on peut s'inscrire à une des disciplines que l'on souhaite.
Dans les activités qui vous grisent, il y a aussi le kendo, littéralement la voie du sabre. Ça vient du kenjutsu, l'escrime au sabre pratiqué par les samouraïs. Vous avez d'ailleurs, Thierry Marx, écrit un opuscule sur les lames de l'époque Kamakura.
Oui, c'est vrai. Avec beaucoup d'erreurs à l'époque, mais ça m'a permis de rencontrer plusieurs familles, dont la famille Okada ou Negaki, ces familles qui m'ont beaucoup aidé à sourcer les traces de cette époque d'un acier très particulier et d'une lame d'une taille assez particulière où vraiment une lame sur mesure et où j'avais lu un jour sur le travail d'un forgeron affûteur de lame, affûteur d'âme. Je trouvais ça très joli. Et Okada, Monsieur Okada, Okada Sensei disait « Rien d'impossible à une lame honnête, mais rien d'impossible à une âme honnête. » Et c'est vrai, quand vous êtes droit avec vous-même, quand vous avez cette culture de la loyauté, il ne peut pas vous arriver grand-chose.
C'est des choses qu'on retrouve, la loyauté et les lames. D'ailleurs, dans votre polar, on ne meurt pas la bouche pleine.
C'est vrai, avec le seppuku.
Le seppuku, avec tout un rituel, un art de la cérémonie. Vous avez choisi, on reste au Japon, un maître japonais comme peintre consolatoire. C'est le pionnier du manga, qu'on pourrait traduire par dessin au trait libre. C'est Okusai. Quel type de dessin préférez-vous? Parce qu'Okusai, il a eu plein de pseudonymes et plein de styles différents.
Il était multifacette, c'est vrai. La vague d'Okusai, tout le monde la connaît. Peu de gens vont voir dans le détail de la vague ce qui peut s'y trouver. Dans ces vagues, il y a des petits dessins encore où on voit peut-être des petits personnages ou des kami, des esprits qui sont dans ces vagues. Et puis, le premier manga, c'est un peu Okusai. Et puis, tous les dessins érotiques, c'était aussi Okusai. Tout le monde l'oubliait, mais il y a une collection au Japon de ce qu'on appelle des shunga, de dessins érotiques du samouraï, du maître et de son épouse, avec des détails dessinés par Okusai qui valent une fortune. Et puis il y a le trait Okusai, il y a aussi la calligraphie Okusai, une calligraphie qu'on pourrait comparer à celle du sabre, où il y a une énergie du souffle. D'ailleurs, il l'écrit, il dit l'architecture du corps humain, c'est le souffle. Donc, tout ça, c'est Okusai. Je pense qu'il ne suffit pas d'une vie pour étudier Okusai. C'était un homme tellement large, tellement artiste, mais très artisan.
Oui, et d'ailleurs, il dépeint systématiquement la vie des gens du peuple, les petits personnages dans les scènes quotidiennes.
Au Japon, tout est cadré. Il y a ceux qui sont des bushi de la caste des samouraïs, les castes des bushido. Et puis, il y a les artisans, il y a les paysans, il y a les commerçants. Tout ça, ça porte des tenues différentes. Et puis, il y a l'architecture que dessinait Okusai aussi. Le travail du charpentier, qui était très important chez Okusai. Parce que dans le travail du charpentier, on va retrouver aussi la structure de l'homme, comment on se construit. Et bien, finalement, on se construit comme une charpente. Bien, la charpente vient de la mer, parce que finalement, un toit, c'est un bateau inversé, etc. Tout ça, c'est Okusai, c'est merveilleux, j'aime beaucoup.
Vous avez fait de la calligraphie?
J'ai fait un peu de calligraphie, j'en fais toujours
un
petit peu.
Ça va avec les arts martiaux?
Ça va avec les arts martiaux, et ça aussi, ça permet une forme de méditation. Tout le monde pense à la méditation avec le mudra et le rythme compté du souffle, mais la calligraphie aide beaucoup à la méditation. Donc je suis pas un expert de la, parce qu'il faut préparer sa couleur, enfin son.
Vous faites de la calligraphie japonaise?
Oui, au pinceau, oui. Et donc ça j'aime beaucoup, mais il faut avoir le temps de se poser. Mais bien souvent, pour me détendre aussi, je démonte des lames pour comprendre aussi comment ces objets étaient construits. Mais la calligraphie est quelque chose là aussi de très méditatif et peut vous permettre de vous ressourcer sur vous-même.
Vous auriez aimé être un samouraï?
Je pense qu'on... Vous savez, la force du samouraï, elle se rangeait dans peu de choses. La force d'un samouraï, je crois qu'elle est encore présente aujourd'hui. On l'a eu la preuve avec cette fabuleuse cérémonie pour le colonel Jean-Marie qui est mort. Le samouraï, c'était la mort ultime. Le rêve de la mort ultime. Et de ne pas se poser un problème avec la mort. Donc on devient un homme libre. Quand vous ne posez plus de problème avec la mort, quand vous êtes intime avec la mort, vous êtes un homme libre. Et vous êtes prêt à tout sacrifier pour un geste ultime.
Et c'est votre cas?
Je crois aujourd'hui, je pense que la pire des peurs, parce que la peur existe chez moi, c'est plutôt la peur de la maladie, de la diminution par la maladie, et la peur de ne pas avoir le courage de faire ce qu'il faut à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui... Et pourquoi je médite beaucoup, et j'ai à une époque de ma vie beaucoup prié, c'est aussi parce que j'ai besoin, par moment, de réaligner les choses. Me dire, bon, c'est pas si grave, on va replacer. Mais c'est vrai que la maladie, la diminution, la perte de mes repères pourrait être quelque chose... Moi, je me souviens exactement de la mort de mon grand-père qui m'a dit, j'arrête ce soir, c'est fini. Et il est mort 2 heures après. Et je me dis, mais je sais pas si j'aurai ce courage, j'espère que j'aurai ce courage. Et ça, c'est... Alors vous voyez que les codes du samouraï peuvent se transposer au 21e siècle. Il n'y a pas la loyauté au-dessus de tout et intime à la... Se débarrasser de ce poids que peut être la mort. Oh, j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être désapprouvé, j'ai peur de tout. J'ai peur de ces toutes petites morts qui règnent autour de moi. Ça crée de la mélancolie. Or que pour ressortir...
Dans la petitesse.
Il faut dire, mais
J'ai pas besoin de toutes ces petites morts. Je veux vivre. Et puis, si ça s'arrête, ça s'arrête. C'est pas si grave que ça. Et j'ai été construit comme ça, dès ma plus tendre enfance, par mon grand-père, qui disait, avec beaucoup de sourire, il disait, mais c'est pas grave, il y a que la mort qui est irréversible.
Dans un instant, on évoquera le truculent commissaire San Antonio. Tout de suite, on écoute la reprise du titre des Stones par Otis Redding en 1965, Satisfaction. À la mélancolie sur France Inter dans l'officine de l'âme de Thierry Marx.
Dans la littérature, même policière, le public recherche avant tout un style. Ça fait 300 ou 400 ans que tous les écrivains français écrivent de la même façon. Ils écrivent de la même façon avec le même vocabulaire. Ils ont même peur de faire des enfants à la langue, vous comprenez?
Et vous, ça ne vous gêne pas d'être, disons,
à moi,
parfois,
contre,
je ne dirais pas vulgaire, mais de friser la vulgarité?
Ah, mais pas du tout, parce que je crois que ce qui compte avant tout, c'est une verve, c'est un ton.
ORTF, Frédéric Dard au micro de Christian Bernadac en 1965. Vous avez choisi comme sérum littéraire l'une des aventures de San Antonio que Dard signe. San Antonio depuis le livre précédent, comme s'il était le commissaire. Les clés des pouvoirs sont dans la boîte à gants parue en 1981. Il y a 175 titres au moins de San Antonio. Vous les avez tous lus, Thierry Marx?
Pas tous, hélas. J'aime beaucoup Frédéric Dard parce que, justement, il y a un sens littéraire, parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la littérature et la littérature française. Il me fait penser à Audiard. Il me fait penser à Michel Audiard. Moi, je retiens beaucoup les textes d'Audiard. Et Frédéric Dard, c'est ça. Donc, quand il y avait des petits moments de mélancolie à la maison, étant chez mon père, il disait San Antonio. Et je le voyais rire, lui qui n'était pas un homme souriant et pas un homme bavard, il riait des phrases, et je crois que c'est une initiation à la lecture et à la littérature qui est extrêmement intéressante.
Alors, les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants, c'est un San Antonio très très noir.
Oui, dur. Alors c'est drôle, il y a une partie de la vie de San Antonio plus légère, plus en langue verte, je dirais, voire imagée, légèrement érotique. Et puis il y a le San Antonio de partie de sa vie qui est devenue un peu compliquée, un peu douloureuse même certaines fois. Et je trouve que le ton s'est durci et le sang coulait un peu plus. Et des fois, reconnaissons-le, un petit peu inutilement.
Bon, j'ai noté deux phrases que je vous soumets parce que c'est pour démontrer la liberté absolue de narration de Frédéric Dard. À un moment, il parle de raffolement et puis il dit « Je dis raffolement car tel est mon bon plaisir, mon pote ». Voilà, ça c'est comme ça. Et puis, à un moment, il décrit un type avec une veste de lynx et là, entre parenthèses, il met 22 points minimum au Scrabble. Il parle comme un vieux copain.
Ouais, et puis le champion de la métaphore. Le champion de la métaphore, moi j'ai une petite phrase comme ça où il dit « Tu peux toujours compter là-dessus, Aristote Pissotière ». Je veux dire. Alors, ce qui est drôle, c'est Aristote Pissotière, on imagine une aristocratie vieillissante, pas vraiment une aristocratie de pissotière, on imagine ses urinoirs. Donc l'image est posée une phrase, sujet, verbe, complément, et on a ça, c'est de la grande littérature pour moi. Et j'adore, et c'est vrai que Frédéric Dard me détend, les séries noires me détendent, mais Frédéric Dard particulièrement et San Antonio. Et puis dans ce titre, les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants, c'est vrai. On a tous les clés de notre propre pouvoir finalement, et on ne veut pas s'en servir des fois.
Ça passe d'un grand lyrisme, parce qu'il y a quand même une velléité d'être un grand écrivain aussi, qu'on ressent surtout dans ce livre, à un humour potage qu'on adore chez San Antonio. Je ne sais pas si j'ose dire ça à l'antenne ce matin, mais oui, à un moment, il se demande, donc le héros qui va se présenter aux élections présidentielles se demande, face à une journaliste, « Aimerais-je me la faire ?» se demanda-t-il. Il tend l'oreille à son slip. C'est à la fois potache et à la fois incroyablement poétique et imagé.
Ouais, ouais. C'est là où je retrouve du Audiard dans le Gentleman d'Epson, par exemple, où Gabin dit, il rencontre un commerçant à qui il a fait parier malheureusement, et il lui dit, mais mon commandant, nous avons la même passion pour le cheval. Et Gabin lui répond, non, votre passion pour le cheval commence à Vaugirard, quand pour moi elle commence à Saumur, et vous tranchiez du saucisson sur votre étalage, que j'apprenais le pas espagnol. Alors brisons-la. Je trouve que brisons-la. Nous ne sommes pas dans les mêmes sphères. Et je trouve ces phrases pleines de métaphores, je trouve qu'elles sont riches, et elles font naître le désir de lire. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui chez des gens plus jeunes, des fois qui ne s'intéressent pas forcément à la littérature.
J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens bancs faisaient un plat. Parce que c'est que l'Indochine, écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon?
2005, Marie-Dominique par la souris déglinguée. C'est extrait de l'album Mekong et c'est la reprise d'un chant de l'armée française d'Indochine écrit par l'écrivain Pierre Macorlan, un ancien militaire dans l'infanterie de marine.
Oui, c'est un très beau chant, mon oncle chantait ça. Mon oncle avait servi les troupes coloniales en Indochine, il était sur les RC-4 et il nous parlait jamais de la guerre, il s'est beaucoup occupé de moi, mais le matin en se rasant, souvent il chantait Marie-Dominique. Et un jour, je suis tombé sur un groupe, La Souris Déglinguée. Je leur ai dit, mais comment vous avez pu penser à un truc pareil? Or, c'était un chant militaire de compagnie. Et je trouve que ça m'a fait tellement rire que je l'ai mis comme remède à la mélancolie.
La chanson suivante est l'une des chansons françaises les plus connues. Elle a été reprise et modifiée d'ailleurs par les parrains et les légionnaires qui se trouvaient en Algérie en 1961. Chanson écrite par Michel Vauquer, composée par Charles Dumontet et interprétée par Édith Piaf, Je ne regrette rien. Est-ce que vous pouvez dire que c'est votre cas, Thierry Marx, vous qui fuyez la nostalgie?
Oui, c'est mon cas. C'était le cas de ma grand-mère qui adorait cette chanson. J'ai rencontré un jour le commandant Élie de Saint-Marc et j'ai lu les ouvrages d'Élie de Saint-Marc. Il avait effectivement cette chanson en tête. Donc, elle ne me quitte pas et je crois qu'elle ne me quittera pas jusqu'à la fin.
Je propose qu'on termine sur ça. Merci beaucoup Thierry Marx d'être venu dans cette émission. On peut vous retrouver tous les samedis à 16h15 sur France 3 dans les carnets de Julie avec Thierry Marx et tous les dimanches à 14h21 et 16h51 sur France Info dans l'histoire à la carte de Thierry Marx, des pastilles de 5 minutes réalisées par Bernard Thomasson et vous-même et dans lesquelles on peut par exemple découvrir l'histoire de la choucroute. Et ça, je le dis au premier degré, c'est aguichant. Après ces chroniques, on revient évidemment sur France Inter afin d'écouter la formidable programmation du week-end. Votre polar, On ne meurt pas la bouche pleine, coécrit avec Odile Bouillet et publié chez Plon dans la collection 109, et l'on trouvera aisément sur internet tous vos établissements et vos autres ouvrages. Chers auditeurs, la programmation, les remèdes, tout ça, c'est sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi réjouis qu'une mouette cajolée par de diligents nuages. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du réalisateur Christian Vincent.